pas la même, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ce slogan footballistique était, je crois, la meilleure introduction possible pour mes invités de ce soir, quand ils partagent la passion des ondes hertziennes, des fréquences et de la communication orale. Mais contrairement à Studio Zef, pas de grille de programme, de playlist ou de podcast pour eux. La radio, ce sont des noms de code, des appareils qu'on peut penser analogiques, ils vont nous dire si c'est toujours le cas, et des échanges potentiels avec l'autre bout du monde. Discipline scientifique très populaire, il y a encore 30 ans, le radioamateurisme connaît un lent déclin de ses licenciés. Il reste pourtant un outil de communication indispensable en cas de crise majeure et un loisir pratiqué par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce soir donc, on parle radio, oui, mais radio amateur. Bienvenue dans la lorgnette. Bonjour à vous deux, donc Daniel Guiraud.
Bonjour.
Bonjour Daniel et Alexis Boisseau.
Bonjour.
Merci à vous deux donc d'être en studio. On va parler radio amateur, donc loisir de radio, mais donc comme je le disais en introduction, assez différent de ce qu'on fait ici. Il n'empêche, on a de nombreux points communs qui nous animent. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de la radio, de la pratique, parce que donc du coup, comme je le disais, la radio FM et la radio le radio amateurisme ont des points communs. Est-ce que vous pouvez rappeler succinctement comment est né le principe de la radio ?
Alors c'est très simple, ça remonte à 1907 où la première mise en place des radioamateurs a été officialisée. Et au fur et à mesure des années, il y a eu des modifications qui ont été apportées, entre autres au niveau du spectre et des fréquences que l'on peut utiliser. La bande FM fait partie d'une fréquence qui est gérée entre autres par l'ARCOM pour en tout cas les autorisations d'émettre. Et bien nous avons passé une licence, un examen pour pouvoir émettre sur des fréquences qui sont allouées aux radioamateurs. Voilà. Et au fur et à mesure des années, on est passé de ce qu'on appelle le morse, la C double, où on a des traits, des traits, des points, à aujourd'hui des radios numériques où même si on utilise encore les ondes et en tout cas des antennes, on a d'informatique qui parle à notre place. Donc il y a eu une progression, et c'est tant mieux d'ailleurs, entre ce qui se faisait il y a quelques années où il y avait que le morse, où on est passé à la phonie, et aujourd'hui du numérique avec des satellites géostationnaires avec lesquels on peut travailler.
Voilà, c'est ce que je disais, hein, on a l'image d'une pratique remplie de vieux appareils, etc. J'imagine que le numérique a traversé aussi, vous n'avez pas été hermétique à l'arrivée du numérique dans votre pratique.
Ah non, surtout pas. Mmh. Il faut être en phase avec son temps.
Surtout quand on joue avec des objets technologiques.
C'est ça. Et même si on pourrait dire, oui, c'est abstrait, ancien, on a toujours le mode numérique et le mode analogique qui sont en coexistence. Mmh. Ça n'empêche pas de faire cohabiter les deux. Et chacun y trouve sa place. Il faut surtout que tout le monde y trouve sa place. Parce qu'on a des personnes qui sont d'un certain âge et on a aussi des jeunes qui sont axés numériques et on a aussi des personnes qui sont à la retraite ou plus âgées qui pratiquent le morse et qui communiquent de ce fait à travers la planète.
La pratique du morse est toujours une pratique viable, utilisée dans la pratique radioamateur.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Okay. On a des petits morceaux, comme disait Daniel, du spectre ou une petite bande de fréquence sur chaque bande allouée où on peut pratiquer le morse.
Eh ben, on va développer ça justement. Alors comment ça fonctionne, la pratique de radio amateur? J'ai mon poste alors chez moi ou en club, on va y revenir. Quels appareils j'ai besoin? Comment je fonctionne? Quelle bande fréquence ça utilise? Enfin voilà, essayons de démocratiser, de vulgariser un petit peu ça.
Alors en France, l'écoute des fréquences est ouverte à tout le monde. Mm-hmm. Je dis bien en France, il y a d'autres pays où effectivement c'est interdit. Mais en France, tout le monde peut écouter tout ce qui se passe sur toutes les bandes de fréquences. Alors quand je dis bandes de fréquences, c'est des bandes basses, ce qu'on appelle la HF, Et puis après, on monte jusqu'à... Alors, je passe tous les... La VHF, UHF, et on passe sur la SHF, hein, où on est sur des fréquences de 10 gigas, 24 gigas. Mm-hmm. Ben, c'est très... Ça, c'est un outil et une salle de jeu. Je vais appeler ça une salle de jeu où on peut faire plein de choses. Alors, je disais tout à l'heure qu'effectivement, il fallait une licence pour pouvoir émettre. Donc, on a passé une licence qui est relativement simple aujourd'hui. C'est un peu de bachotage. Tout le monde peut y arriver.
C'est comme l'auto-école. Voilà, c'est un permis. C'est une autorisation après un passage d'un examen.
Après, il y a un examen. Il y a une partie réglementation, une partie technique. Et il faut avoir 10 sur 20 sur les deux. Aujourd'hui, c'est du bachotage. Il y a on peut aller sur Internet. Il y a des QCM qui sont là pour nous aider à s'entraîner. Il faut aller voir des radioamateurs. Moi, j'ai formé, par exemple, à EXI il y a un an et demi maintenant. Bientôt 2 ans. Ou alors directement dans des radioclubs, quand les radioclubs sont équipés et ont la possibilité de le faire. Et donc, à partir du moment où on a passé l'examen, qu'on l'a reçu, on reçoit un indicatif qui est propre. Par exemple, moi, mon indicatif, c'est F4ILN.
Alors, à quoi ça correspond, cet indicatif précis? J'imagine que ça a une...
C'est une signification. Le F, c'est parce que c'est la France.
Ouais.
Par exemple, je veux dire, la Belgique, c'est ON. Alors, ne me demandez pas pourquoi ON,
mais
je ne sais pas.
C'est un indicatif...
voilà. Les Suisses, c'est HB9, par exemple. Donc, chaque pays... Hein, puisque il y a une organisation mondiale qui gère ce système. Chaque pays a un indicatif. Le 4, aujourd'hui, c'est parce que c'est 4. On dépend de l'ANFR, c'est l'Agence nationale des fréquences, qui attribue ces indicatifs. Et ensuite, ILN, c'est comme les voitures. C'est les immatriculations de voitures. Au fur et à mesure qu'il y a des radioamateurs qui passent leur licence, ils ont un indicatif. Le suivant, il aura ILMNO, etc. etc., etc. Voilà.
OK. Et donc, avec cet indicatif, c'est un identifiant qui vous voit et la licence que vous avez donc vous avez l'autorisation de pouvoir émettre sur
certaines bandes de
fréquences. Sur certaines fréquences.
Voilà.
Tout à fait.
Je prends le relais.
Oui, je prends le relais. ce qu'on disait tout à l'heure, donc il y a la HF qui va de quelques hertz jusqu'à 30 MHz. Mm-hmm. Et après, on passe sur la VHF, etc. Donc, on sépare bandes de 0 à 30, 30 à 300, 300 à 3 gigas. On retrouve les fréquences du Wi-Fi, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les anciennes fréquences de la télé analogique ou numérique, la TNT, sont aussi sur une certaine bande de fréquences. Donc, on partage. L'Agence nationale des fréquences radio nous a alloué une partie de la bande pour chaque morceau du spectre, on va dire ça comme ça. De 0 à 30 MHz. On va avoir la bande du 40 mètres, ce qu'on appelle le 7 MHz. On va avoir le 14 MHz, c'est la bande des 20 mètres. On va avoir la bande des 10 mètres, le 28 MHz. Et sur ces petits bouts de fréquence-là, on va pouvoir nous émettre dans différentes façons. Mmh. On va pouvoir faire donc du morse, du numérique, de la phonie, donc du parler. Mmh. On va pouvoir envoyer aussi des images. Donc, on va utiliser un ordinateur, on va coder des images, on va le transmettre et un opérateur dit radio amateur ou un SWL, donc un écouteur,
ouais,
qui est autorisé donc, à partir d'une simple application sur un téléphone ou même sur Internet. Hein, il se connecte avec un ordinateur sur un site Internet. Il a tout le spectre de 0 à 30 MHz. Il se récupère un point d'accès quelque part sur la planète et il peut écouter ce qui se passe autour de ce point d'accès.
Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de licence peut accéder et écouter, ne serait-ce que juste être un écouteur, parce que le monde des radioamateurs est divisé en deux catégories, les émetteurs et les écouteurs. Donc en fait, n'importe quel quidam autour du monde peut accéder à des conversations entre radioamateurs du monde, c'est ça ?
Mais pas que.
Ouais.
Mais pas que. Parce que comme c'est de l'écoute,
ouais,
et que la bande est ouverte, on peut écouter auparavant, il y avait il y a eu la FM, il y a eu la AM,
ouais,
Radio Londres, par exemple. Hein. Mais ça existe toujours. Ouais, ouais. Il y a encore des émetteurs partout sur la planète, en ondes moyennes, qui diffusent en modulation amplitude, en AM.
En AM, ouais.
Et on peut écouter des stations radio chinoises ou en Amérique, en Russie, en Europe aussi. Il y a toujours des émetteurs à Issoudun qui transmettent.
On croirait que vous parlez un peu du dark web dans ces moments-là.
Non, c'est non.
En fait, c'est des fréquences un peu souterraines qui sont plus très démocratisées, mais qui existent toujours, qui sont toujours alimentées.
C'est parce qu'aujourd'hui, on nous vend un autoradio ou une radio pour la maison qui va de 88 à 108 mégas.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose qui existe.
C'est ça.
Donc c'est là qu'il faut aller chercher. On peut trouver des choses super intéressantes.
J'imagine.
Alors, pourquoi on a des bandes de fréquences ? Tout simplement parce qu'entre 0 et 30 MHz, on peut faire le tour de la Terre. Vous me direz, si je suis à l'opposé, comment je fais pour contacter par exemple les Chinois ? Ça peut être compliqué, ils sont à l'autre bout de la Terre. Mmh. Eh ben, simplement avec des rebonds, où on va, comme une balle de ping-pong, et qui va rebondir et qui va faire le tour et qui va arriver de l'autre côté.
C'est ce qu'on explique, nous, quand on fait des ateliers pédagogiques à des enfants, comment fonctionne la radio. Je le compare souvent, l'onde de radio, à une balle qui va rebondir, notamment l'image, la métaphore de l'écho, du son qui revient dans d'autres micros et qu'il faut
éviter. C'est exactement ça.
Donc c'est quelque chose qui rebondit une onde. Ouais.
Tout à fait. Et alors, il y a des fois ça rebondit, il y a des fois ça rebondit pas. parce qu'il y a des conditions météo qui font que une activité solaire un peu trop intense, et on se retrouve derrière avec une occultation de la communication, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que plus on est bas et plus on va loin. Mm-hmm. Par contre, le transport d'informations est peu important. Par contre, plus on monte en fréquence et plus les distances vont se raccourcir. Par contre, on va beaucoup plus passer d'informations. Je reprends toujours l'exemple du Wi-Fi. On était sur du 2,4 giga. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on monte à du 6 giga? Parce qu'il faut qu'on transporte énormément de données. Voilà. Donc, plus on monte en fréquence et plus on peut envoyer des données. L'inconvénient, c'est qu'avec aujourd'hui une antenne, moi j'ai une antenne qui est à l'horizontale, qui fait 83 mètres de long, et je fais le tour du monde avec ça. Plus on monte en fréquence, plus on va avoir des antennes dites directives, voire même à partir de 2 giga à 4, on va être obligé d'avoir des paraboles pour pouvoir cibler les communications. Donc chaque fréquence, ou chaque bande de fréquences qui nous sont allouées, ont un intérêt. Là en ce moment, par exemple, le 7 mégas, c'est que le matin. Le 14 mégas et au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Mais l'après-midi, on peut y accéder. Donc, c'est un jeu. En fait, on essaye de communiquer avec d'autres radioamateurs. C'est la chasse à d'autres radioamateurs à l'autre bout du monde. Et c'est ça qui est passionnant. Voilà. Il y a la partie ludique de la radio et la partie technique, parce qu'on développe aussi du matériel. Tout à l'heure, vous me demandez avec quoi j'émets. Il faut émettre, il faut déjà un micro, il faut un émetteur et une antenne. C'est bête comme chou, mais mais il faut que l'antenne soit accordée à la bonne fréquence, etc. Enfin,
il y a du réglage, il y a de la technique.
Il y a de la technique, mais c'est là où c'est passionnant, parce qu'on est quelque part, on a une sensibilité scientifique le développement de la radio est aussi passé par les radioamateurs.
On va y revenir justement. Chaque technologie est héritée d'une technologie plus ancienne. Comment la pratique de la radioamateur s'est démocratisée? J'ai vu notamment, c'est une des pistes, vous allez me confirmer et peut-être m'en donner d'autres, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, notamment, beaucoup de surplus militaires de radio, puisque on a cette image des militaires qui opèrent par la radio, notamment sur la première moitié du XXe siècle. Donc les surplus militaires post-première et plutôt Deuxième Guerre mondiale ont largement favorisé justement l'accès aux citoyens classiques de la radio. C'est ça ? Enfin, c'est une des explications, en tout cas ?
C'est une des explications. Et puis, il y a la passion de pouvoir communiquer. Il faut vivre un peu avec son temps. Hein. Donc, auparavant, il y avait les signaux de fumée. Après, fut le morse.
Le télégraphe.
Le télégraphe.
Le poste à galène.
Aujourd'hui, on est sur l'informatique, Internet. C'est un moyen de communication comme un autre. On pourrait nous dire, oui, vous êtes has-been, mais oui, il y a le téléphone. On compose un numéro de téléphone et on a quelqu'un tout de suite. Mais nous, c'est plus sportif. Et puis, il y a le oui. fait d'avoir le feeling et puis de trouver quelqu'un à l'autre bout de la planète sur une petite île au plein milieu du Pacifique qui a un émetteur-récepteur et qui va essayer d'émettre et il va recevoir et lui aussi va faire une sorte de contest.
Pour un concours.
Un concours pour recevoir un maximum de monde et se faire connaître.
On voit que voilà, il y a un côté chasse au trésor dans votre pratique.
Quelque part, oui. c'est d'essayer d'aller le plus loin possible et d'avoir des contacts le plus loin possible. Et ces contacts, la plupart du temps, alors c'est vrai que ce n'est pas très radio ce que je vais faire, mais on reçoit ce qu'on appelle des QSL. Alors parce qu'on parle
dans le jargon.
On parle Q, excusez-moi. Le code Q, en fait, ça a été utilisé par le Morse pour limiter le nombre de mots hein, mm-hmm. pour pouvoir discuter. De là, on s'en est suivi un code, le code Q, qui permet de simplifier la communication. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La maison, par exemple, au lieu de taper en Morse maison, ouais. on tape QRA. Voilà. Et tous les radioamateurs du monde
vont comprendre que
QRA, c'est la maison. Mmh. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et on reçoit des cartes postales hein, qui viennent de très loin, des fois. Où, là, j'en ai une qui vient de... Ben, je ne sais plus... Ben, ce n'est pas marqué. La Slovénie, c'est en gros.
Slovénie.
La Slovénie, voilà, ouais. par exemple.
Okay. Ça confirme le contact entre les deux personnes.
D'accord, ok.
Donc, il est d'usage de recevoir une QSL.
C'est donc, en fait, c'est comme des cartes de visite.
Oui, comme des cartes de visite.
Et chaque quand le contact a été établi.
De renvoyer, ouais. Comme quoi, on a bien fait le contact avec la personne en face.
Très bien. Donc, il y a la pratique personnelle, on en a parlé. Il y a la pratique en club. Alors, j'imagine que ceux qui font, comme vous, de la pratique personnelle aussi sont licenciés d'une structure. Il en existe ici sur le Loir-et-Cher. Est-ce qu'on peut en parler? Et puis, bah, d'ailleurs, avec le petit problème technique, j'ai pas eu le temps de vous demander, mais de quel club êtes-vous licencié vous deux, Daniel et
alors,
Alexis.
On est licenciés. Alors déjà au niveau en termes associatifs, il ouais. Y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Donc on a l'ARALEC qui est l'association départementale, mm-hmm. et on a un radio club qui se trouve à Vineuil,
ouais.
qui est le RCA, qui a un indicatif radio club F6 KGX. Donc ça, c'est le seul radio club restant dans le Loir-et-Cher.
Il y en a
un
actif.
Autre
et
actif. Okay. Il y en a d'autres. Qui sont inactifs et en sommeil. Il y en a un qui est sur CJ et l'autre qui est sur Vendôme. Mm-hmm. Donc il y a aussi donc il y a l'ARALEC qui est donc l'association départementale. On a l'ADRASEC qui est on en reparlera un peu plus tard, mais qui est aussi une structure associative de radioamateurs au service de la sécurité civile. C'est en cours de remise en route après une longue période de sommeil. Il fallait trouver un public pour pouvoir faire revivre ses activités. L'association de Vineuil compte une trentaine de membres. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pas beaucoup, ouais. mais on n'est pas que 30 radioamateurs sur le département.
Oui, j'imagine.
On est plutôt une centaine.
Vous vouliez rajouter quelque chose? Non.
Non, je voulais juste parler du nombre de radioamateurs ouais. en France. On était en France à 13 000 et c'est en train de remonter.
Ok.
Il y a un engouement ou une reprise d'un certain intérêt, un regain de radioamateurs. Il y a 300 radio clubs en France. Mmh. Donc voilà. Et puis sur le département, il y a une centaine de radioamateurs. Des gens qui sont actifs, d'autres non. Ouais. D'autres qui veulent rester tranquilles dans leur coin. Enfin voilà, ça se respecte en tout cas.
Tout à fait.
J'ai vu qu'il existait, alors je ne sais pas si c'est votre fédération de référence, le réseau des émetteurs français dont le siège social est à Tours, donc ici en région centre. Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions de vous? Enfin, est-ce qu'ils ont un rôle fédéral des radioamateurs?
Ils sont fédérateurs. Tous les radioamateurs de France ne sont pas cotisants au REF.
Ouais.
Donc le REF, hein, réseau des émetteurs français. Mais c'est une très grosse association qui a quand même un passé
important,
et c'est eux qui nous aident pour avoir certaines choses auprès de l'État. Hein.
Okay.
C'est une référence. C'est un peu comme la Fédération.
Le REF est une référence. Pardon.
Je l'ai pas fait exprès.
J'ai fait une petite boutade. J'ai fait une petite boutade.
Donc le REF, c'est une association un peu comme la fédération de, ouais. de foot, par exemple, ouais, ouais.
Un organe centralisateur.
Quoi. Voilà. Mm. Et puis après, qui permet d'organiser des choses, qui permet d'aller discuter avec les instances internationales aussi. Donc on s'appuie effectivement sur le REF, qui est d'utilité publique, qui est reconnu d'utilité publique, comme tous les radioamateurs, et on est reconnu d'utilité publique. On peut être réquisitionné.
Ok. Les radios amateurs. Alors j'ai vu qu'il existe une partie de radios amateurs, on va dire pour simplifier de loisirs. J'ai vu aussi qu'il existait des radios amateurs au service de la sécurité civile. Est-ce que vous êtes les mêmes personnes et quel est le rôle des radios amateurs de sécurité civile? Est-ce que vous pouvez dégrossir un peu le sujet? Moi j'ai juste creusé un petit peu, mais je pense que les auditeurs et les auditrices découvrent un champ qui s'ouvre à eux, donc ils sont en train de.
Alors déjà les radios amateurs ont souvent. Ce que c'est qu'un radioamateur, on ne sait pas ce que c'est.
Ouais.
C'est la première chose. Donc, on est là pour démystifier et puis informer les auditeurs. Et ensuite, effectivement, il y a la partie sécurité civile. Donc, chaque département a ce qu'on appelle une ADRASEC, Association de radioamateurs au service de la sécurité civile. Qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui est reconnu d'utilité publique. Il y a aussi une fédération nationale qui existe, nationale, qui regroupe un certain nombre de radioamateurs par département. Mm-hmm. Là, par exemple, la DRASEC 41 est en train de renaître. Parce que, elle était en sommeil.
Okay.
Elle était en sommeil, ça avait été récupéré par le département 18. Et là, donc, je suis président de la DRASEC, donc je peux en parler
un peu plus facilement. Allez-y, allez-y. Bah oui, justement.
Et donc, on est là avec des gens qui sont bénévoles, des mm-hmm. radioamateurs bénévoles, ou pas forcément radioamateurs d'ailleurs, on peut avoir des écouteurs aussi, qui peuvent aider, en relation avec la préfecture. C'est-à-dire que la préfecture peut nous dire, on a un problème de communication entre tel endroit. Je vais prendre l'exemple des feux, par exemple, qu'il y a eu dans le Gard. Il y a eu trois ADRASEC, donc trois départements, qui ont pendant 3 jours recréé un réseau de communication parce qu'il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien. Et donc les trois ADRASEC ont mis en place un pont de radio, de communication, pour pouvoir mettre en relation les pompiers aux services qui sont donc sur la partie
opérationnelle,
hein, et puis le service central. Des pompiers. Donc, on peut très bien être réquisitionné. Ça, c'est la préfecture. Il y a une dame qui s'occupe de ça à la préfecture, Madame Quatrom, je ne sais pas si on peut le dire. On peut le dire. Madame Quatrom qui peut nous appeler en nous disant on a un petit avion qui a disparu des radars. On sait qu'il était
au-dessus
de Loir-et-Cher. Alors ça, c'est un exercice qui a été réalisé. Et on envoie des radioamateurs qui ont du matériel spécialisé pour écouter les balises. Et on a retrouvé le petit avion. Au bout d'une heure, une heure et demie, on a réussi à le localiser. Voilà. Donc ça fait partie du service public, du service de la sécurité civile. Et on peut, comme ça, on n'a pas forcément de problème particulier, encore qu'on peut avoir un endroit où il n'y a plus de téléphone parce qu'il y a des inondations. Il y a tout un tas de choses. On est en relation aussi avec l'établissement... ça y est, j'ai bouffé le... Ça va venir. Enfin, ça va revenir. Qui gère toute la partie inondation.
Ouais.
Pour les plans communaux de sauvegarde.
Voilà, il y a les plans communaux de sauvegarde aussi où on peut apporter notre aide à la rédaction de ces plans communaux, plans de sauvegarde communaux. Ça, c'est adressé aux mairies. Ça, c'est un petit message aux mairies. Et donc, on est réquisitionnable n'importe quand. Et surtout, je le souhaite à personne aujourd'hui, demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de satellite, il n'y a plus de communication d'une manière générale. On est les seuls remparts. C'est souvent que j'utilise cette image-là, c'est le film Independence Day, mm-hmm. où à la fin, effectivement, ils ont trouvé la solution pour se débarrasser des extraterrestres. Et on voit, il y a des images où on voit des gens qui sont sur des pioches du Morse et ils communiquent en Morse pour pouvoir envoyer les informations. Eh bien ça, les ADRASEC sont capables de faire, et en général, les radioamateurs. Voilà.
Donc on voit bien l'utilité publique que, oui. que peut avoir votre service, votre pratique. Et donc j'imagine que voilà, les usagers, enfin les radioamateurs de sécurité civile sont les mêmes. On voit bien voilà, que comme vous êtes l'exemple parfait de la pratique de loisir et de la pratique de sécurité pour la sécurité civile.
Alors c'est on fait les deux,
ouais.
mais on le fait par plaisir.
Ouais, oui, j'imagine. Oui, oui,
c'est y a rien.
Et par conviction aussi.
Par conviction aussi. Donc au contraire, on est au service. On est un peu reconnu du public. On est là pour aussi pour aider et pour aller plus loin.
Je lisais, alors évidemment on revient un peu sur l'histoire aussi par là, que les avancées technologiques sont souvent dues à la recherche scientifique ou militaire. Je lisais aussi en préparant cette émission que la radio amateur a pu aussi être proposée, faire avancer là où les technologies liées au radio amateur. Donc on voit bien la puissance citoyenne de la pratique de loisirs, d'outils qui permet aussi de déposer des brevets pour l'utilisation massive de
on prenait l'exemple tout à l'heure du Wi-Fi.
Ouais.
C'est une femme hein, dans les années 30 qui, mm-hmm. qui était radioamateur, mais pas que, et qui a développé ce qu'on utilise aujourd'hui en unité technologique. Hein. Les ondes Wi-Fi, on est sur 2 giga 4. Découvert dans les années 30, il y a eu des recherches scientifiques. Cette femme a été... alors, j'ai plus de nom en tête, forcément. Les aléas du direct.
C'est des choses qui arrivent. Hein.
Des choses qui arrivent. Et donc, aujourd'hui, la technologie qu'on utilise, c'était il y a 100 ans. Donc, qu'est-ce qu'on pourra pouvoir découvrir maintenant et qu'on va pouvoir utiliser dans 20, 30, 50, une centaine d'années
Autre chose.
On n'y est pas, on verra ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et c'était, donc le Wi-Fi, c'était un exemple ouais. Parmi tant d'autres.
Et puis on est tous radioamateurs, on a tous un téléphone. Et le téléphone marche comment ?
Avec, par onde,
avec un par onde radio. Donc on est tous quelque part radio amateurs. Voilà, c'est la boutade.
Justement, on parlait donc d'une activité en déclin, même si vous observez de la bonne volonté et un regain d'intérêt. La pratique est aussi un peu associée au survivalisme ces derniers temps. Est-ce que vous constatez ou pas vraiment?
Non, a priori non. On n'a pas eu de demande en tout cas dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est pas étonnant.
Ouais.
C'est pas étonnant dans le sens. Alors il y a une bande de fréquence qui est tous les petits talkie-walkie qui sont vendus pour les gosses, les gosses ou pas les gosses d'ailleurs, sont sur des bandes de fréquence qui sont libres, soumis à une certaine réglementation de puissance, etc. Mais mm-hmm. Effectivement, on sait qu'il y a certaines organisations qui utilisent et qui vont privilégier en cas de soucis ces fréquences-là. Voilà. Donc, on n'a pas eu de demande dans ce sens-là. Non. On a plus de demandes aujourd'hui d'anciens cibistes qui alors c'était la bande des 27 mégas, cibis ça veut dire citizen band, la bande des qui était aussi libre, réglementée certes, mais
elle est toujours utilisée. D'ailleurs, il y a un regain d'intérêt. Hein. Depuis quelques années sur cette bande de fréquence qui était très utilisée dans les années 80-90 jusqu'à l'arrivée du téléphone portable.
Je me souviens, mon papa utilisait la Cibi pour les départs en vacances avec la famille de copains qui étaient dans la voiture d'avant ou d'après pour communiquer.
Bon, beaucoup de radioamateurs ont débuté comme ça par la Cibi. C'est un tremplin. À l'époque, c'était aussi un tremplin. Aujourd'hui, tout le monde peut passer la licence. Alors je mets ça entre guillemets, c'était un peu réservé à une certaine élite, parce qu'il y avait un examen, il y a 20 et quelques années, il fallait construire soi-même son émetteur, son récepteur.
Il y avait une
quarantaine d'années, un inspecteur qui venait à la maison
pour
voir ce que l'on avait fait. Enfin,
c'était dépouillé, c'était même mis en panne exprès pour que la personne qui passe l'examen puisse le dépanner et sache...
Voilà. Donc il fallait être pointu,
il fallait avoir des vraies compétences et des vraies connaissances techniques, scientifiques.
Aujourd'hui, N'importe qui peut passer la licence. Encore une fois, il y a un peu de bachotage à faire. Mm-hmm. Rien n'empêche après de progresser, parce que c'est un tel domaine, on a un tel domaine de compétences, hein, que l'examen, c'est une chose, c'est un permis. On a comme un permis de voiture, on a appris à conduire, hein, on a été formé pour conduire, on a passé l'examen, le permis de conduire, là on va passer une licence, et puis après ben, on va s'acheter du matériel, pas forcément neuf, aujourd'hui il y a du matériel qui marche très bien, qui ont quelques années, qui sont beaucoup plus simples à utiliser, parce que c'est, aujourd'hui c'est bourré d'informatique embarquée, et à dépanner c'est quasiment impossible, enfin, ou alors il faut avoir des bons yeux.
On revient à la machine d'il y a 40 ans, qu'il faut savoir démonter, etc. Ouais, ouais.
C'était les lampes. ouais. Au départ, c'était les lampes. Maintenant, aujourd'hui, c'est des transistors qui
c'est des microprocesseurs. Si on n'a pas d'outillage spécialisé, c'est impossible à dépanner.
Donc, aujourd'hui, tout le monde est capable de devenir radioamateur, et j'encourage tout le monde à venir se former. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un radioamateur. Le radioamateur est facile à trouver. En règle générale, il a un nid d'antenne au-dessus de chez lui sur un pylône. Et c'est quand vous voyez ça, c'est bon.
Vous êtes sûr que si votre voisin a des antennes, c'est un radioamateur. Voilà. Ça marche.
Il y a de fortes chances que ça soit un radioamateur.
Je voyais vos voitures ou l'une de vos voitures avec une antenne, alors classique de radio, mais ouais. Aussi voilà l'antenne ventouse collée sur le
parce que c'est une passion. On la traîne avec nous dans la voiture.
Dans la voiture aussi.
Oui.
À la manière des fameuses CB dont on parlait il y a deux minutes.
Tout à fait.
En fonction de la bande de fréquence, la longueur d'antenne est différente. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait pour la CB, 27 MHz, l'antenne privilégiée fait 1,45 m. Mm. Pour la VHF que nous, on va utiliser, on est plutôt sur une hauteur de 1 mètre, grand maximum.
Combien ça coûte de s'équiper? On n'a pas parlé de l'équipement et de son coût. Avec les nouvelles technologies, peut-être une réduction en termes de volume du matériel par rapport à des choses qui pouvaient être énormes il y a peut-être 40 ans.
Je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend.
Ça dépend.
moi, je conseille au départ, à moins qu'on ait les moyens financiers, mais de commencer par aller voir un radio club ou aller voir un copain radioamateur. Il y a toujours un émetteur-récepteur quelque part
qui traîne dans le placard
ou pas dans le placard. D'ailleurs, qui peut être utilisé. On a cette générosité chez les radioamateurs qui permettent d'effectivement d'accueillir les gens, de les accompagner et de faire en sorte de les aider. Après, le matériel, c'est comme une voiture. Vous avez des voitures qui sont des petites voitures qui ne coûtent pas cher jusqu'à des machins qui sont hors de prix pour
des vaisseaux spatiaux.
Oui, par exemple. Alors, en parlant de vaisseaux spatiaux, on a aujourd'hui un satellite. Je vais rebondir sur ça, qui a été envoyé, qui est géostationnaire, c'est-à-dire qu'il tourne en même temps que la Terre, il est à 36 000 km. C'est un satellite envoyé par le Qatar qui émet sur la télévision, mais on a un tout petit morceau de ce satellite qui est alloué aux radioamateurs du monde entier, à partir du moment où il y a une couverture de ce satellite. Et ça aussi, c'est un développement à faire chez soi. Et puis on progresse parce qu'on utilise d'autres fréquences, on utilise d'autres matériels. C'est une parabole, ça ne se règle pas comme une antenne ou qu'on peut jeter entre deux maisons. C'est pointu. Et en même temps, c'est passionnant. Donc, pour répondre à votre question, ça dépend. Ça peut être quelques centaines d'euros à des milliers d'euros si on veut s'équiper. Mais on peut démarrer très petit en se faisant plaisir et en progressant au fur et à mesure. Et ça permet aussi, en même temps, de choisir ce que l'on veut et pas de se lancer tout de suite à acheter une Ferrari. Si on ne sait pas la conduire, ben, ça ne sert à rien.
On va glisser vers la fin de cette émission. Vous serez, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, vous serez à la fête de la science ce samedi. Vous faites partie du village des sciences qui va se tenir à l'INSA, donc dans le cadre de la fête de la science, donc événement national. On a pu en parler cette semaine, notamment dans La Chose Commune. Je vous renvoie vers le podcast qui détaille un petit peu certains des stands que vous allez pouvoir croiser ce samedi et dimanche. Donc les radioamateurs du Loir-et-Cher en feront partie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez y faire, les objectifs, et qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer aux visiteurs qui vont venir?
Alors, pour le village des sciences à l'INSA, donc on remercie d'ailleurs chaleureusement toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, parce que c'était un projet, c'était un peu jeter une bouteille à la mer. On a été retenus et franchement, on a eu de très bons contacts. On a été accueillis chaleureusement par toutes les personnes de l'INSA, par la personne qui gère donc, la fête de la science sur le département. J'aurai l'occasion de la revoir ce week-end. Et donc, au niveau présentation, on va présenter de façon simple, sans rentrer dans le détail dans un premier temps. Les personnes qui seront intéressées, on pourra évoquer beaucoup de choses parce que le domaine étant très vaste. Donc, on va exposer des postes qui seront reliés à des antennes
opérationnelles.
Et opérationnelles. On a actuellement un indicatif spécial pour qui s'appelle le TM41FS, qui a été attribué par l'Agence nationale des fréquences radio pour 15 jours. Et on va donc émettre avec cet indicatif spécial. On est déjà en cours, hein, chacun de notre côté, pour contacter toute la planète.
Donc vous allez pouvoir proposer la fameuse chasse au trésor dont on parlait en début d'émission aux visiteurs.
Alors, chasse au trésor, oui, on peut faire découvrir en tout cas.
On pourrait faire découvrir.
Après, on chasse autre chose, nous on chasse le renard. très symboliquement, c'est de chasser des balises sur certaines fréquences. Mm-hmm. Et puis on fait des parcours comme ça, que c'est très très ludique. On peut faire ça avec des enfants, on peut faire ça avec plein de personnes qui sont intéressées. Et on peut, ça peut être très pédagogique, c'est marrant, c'est ludique. Et en règle générale, les gens accrochent bien parce que il faut chercher avec l'antenne le signal le plus fort. Tiens, c'est dans cette direction là et puis de trouver la balise, et puis on passe à une autre balise, et ça fait partie des jeux qu'on peut faire.
Donc ce sera plutôt avec un aspect très ludique, votre présence sur le...
Alors la chasse au renard, on le fera, il n'y aura pas, mais la partie ludique de démonstration.
On expliquera comment fonctionne tout ce qu'on a évoqué là ce soir. On l'évoquera. On aura un grand écran avec un SDR, donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc à partir d'un ordinateur, on peut écouter toutes les bandes de fréquences, et on verra, on pourra se déplacer, expliquer qu'est-ce qu'on entend à cet endroit-là, comment ça fonctionne, faire un échange avec les visiteurs et démontrer que c'est facile. C'est surtout c'est facile.
Et moi,
je rebondis tout à l'heure parce que on disait oui, c'est facile. Il faut avoir 10 sur 20 à l'examen. Et il y a eu plusieurs enfants, parce que c'est important de le signaler. Il y a des enfants qui ont passé l'examen ces dernières années.
Ouais.
Et à partir de 10 ans.
Okay.
Voire même un petit peu moins pour le meilleur d'entre eux.
Okay.
Voilà. Ouais, y a une jeune fille qui a 12 ou 13 ans
qui est au collège.
Qui a pu obtenir une licence parce qu'elle a passé l'examen.
Alors, ce n'est pas réservé aussi qu'aux hommes. Il y a aussi des femmes. Aussi on a dans le Radio Club, on a deux femmes qui sont licenciées aussi, pareil. Dont une qui vient de passer, d'apprendre le morse, parce que ça s'apprend, qui vient d'apprendre le morse. Et je lui tire mon chapeau parce que c'est pas simple. J'ai essayé et il faut avoir du temps. Moi, j'encourage tous les gens qui sont intéressés à venir nous voir. C'est donc samedi prochain, le 4. Ça ouvre à 10h jusqu'à 18h. Donc nous, on sera non-stop sur le stand. C'est facile à trouver. Vous verrez, c'est à l'INSA. Et puis si vous voyez une parabole
ou une grande antenne.
Ou un long fil en travers.
En travers, c'est nous. C'est excellent.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des éléments d'information qu'on n'aurait pas mentionnés
Oui, mais c'est pas le temps qu'on a passé là. Il nous faudrait beaucoup plus de temps parce qu'on est des passionnés.
On a encore quelques minutes si vous voulez, mais
on est des passionnés, on est des bavards et on voudrait ce que l'on souhaite, c'est partager cette passion là. Souvent, les gens se disent non, c'est pas pour moi, ou puis j'y connais rien en électricité, j'y connais rien en électronique. Et alors, chiche. Là, j'ai formé quelqu'un qui n'y connaissait rien en informatique, pas en informatique, en électricité.
Ouais.
Je l'ai accompagné, il a bachoté, il a travaillé, je l'ai corrigé, il a progressé et il a eu son examen. Je crois qu'il a eu 19 sur 20 ou 2 à la réglementation. Et bon, il s'était fixé ça comme objectif et parfait. Enfin, moi, je le remercie de sa confiance et je suis vraiment fier de ce qu'il a fait. Alexis aussi, j'en ai formé 3 radioamateurs depuis que je suis licencié en 2019. Donc voilà, c'est cette passion, ce plaisir et tout le monde peut devenir radioamateur.
Parce que même à 72
ans.
À 72 ans, on peut passer l'examen et y arriver.
Parfait. Et ben donc on encourage les auditeurs et les auditrices à s'intéresser donc à cette pratique de radioamateur, à se diriger donc j'imagine qu'on trouvera les coordonnées en ligne, mais aussi peut-être à aller voir directement à Vineuil, hein. C'est au niveau de la bibliothèque, ça ressemble un peu à une tour de contrôle d'aérodrome, le radioclub de Vineuil. Merci à vous deux, donc Daniel Guiraud et Alexis Boisseau, donc radioamateurs en Loire-et-Cher, et puis donc on vous retrouve ce samedi au Village des Sciences de l'INSA.
Merci à vous.
Merci beaucoup
de cette invitation.
Et ben avec grand plaisir, on a pu parler radio, même si ouais, encore une fois nos deux secteurs sont un peu différents, mais on partage effectivement cette passion et cet intérêt pour la propagation des ondes et des informations. Bonne écoute sur les ondes de Studio DEF et bonne fin de journée à tous et à toutes. Salut.